Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre présence et merci pour ce soir. Nous parlons de l'Église. Qu'en penser? Nous sommes dans une paroisse de Djuma, au cœur du Congo, du diocèse de Kikwit. La paroisse est dirigée par les pères jésuites. C'est une grande communauté de jésuites, au moins une dizaine, qui partaient dans toutes les directions. Ils avaient un grand jardin, un grand grenier, et c'était magnifique, beaucoup de champs, ils faisaient les vaches, des élevages. Et voilà, pendant que le père dormait, les enfants, les jeunes venaient autour du couvent pour voler, et les oranges, et les cocotiers, et n'importe quoi. Alors ça ennuyait les prêtres, parce qu'évidemment, c'est la sieste, c'était sacré, il ne fallait pas déranger les pères qui faisaient la sieste. Alors finalement, il y a un qui a veillé, le père Mors, de Bruxelles. Il est décédé, il n'y a pas longtemps ici à Bruxelles. Père Mors, le curé, ah, il attend, il guette, et les enfants, ils viennent, et voilà, il y a un qui monte, il est le plus loin, le père, il sort. Ceux qui étaient en bas ont fui. Il a attrapé celui qui était dans l'arbre, ah, il dit, mais jeune homme, pourquoi est-ce que vous venez voler les oranges, le père dorme. Alors l'enfant, il dit, mais père, pourquoi est-ce que vous nous chassez, mais les oranges ici, c'est pour l'église. Alors en langue, il dit, ma boundou, mais malaya, ok, malaya, dit boundou, c'est l'église. Ah bon? Les oranges, c'est pour l'église. Hein? Et le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé la culotte du jeune homme, il a pris fouet, tapé sur les fesses. Les fesses aussi, c'est pour l'église. Nous entendons souvent parler de l'église avec différentes orientations. Moi, je suis croyant, mais pas pratiquant. Je suis chrétien, mais je ne vais pas à l'église. C'est ennuyeux. Le rite, c'est long, ça m'agace. Il y en a qui n'aiment pas le rite. Est-ce que vraiment on peut être chrétien sans aller à l'église? Bonne interrogation. On peut aimer sa mère sans téléphoner, sans envoyer une carte, sans un petit bisou, sans une présence. Et souvent, c'est lors de conversations, parfois avec des grandes personnes, et qu'ils discutent. Il y en a qui disent, moi, vous savez, je crois en Dieu. Dieu, j'y crois. Mais je ne vais pas de l'église. Et les gens disent, l'image que j'avais de l'église, c'était des célébrations un peu ennuyeuses, notamment les baptêmes, les mariages, les enterrements, et c'est morne, il fait froid. Il y en a parfois qui voient l'aspect hiérarchique, la hiérarchie de l'église qui semble éloignée des réalités. Le mot église évoquait aussi parfois rien que le bâtiment situé au milieu de nos villages, qui sont mal chauffés, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous savez, cela sont des conversations extérieures qui ne nous aident pas à comprendre l'Église en profondeur. Mais nous qui sommes de l'Église, qui sommes en pleine activité, en pleine mouvance, nous aimons l'Église. Mais voilà comment nous pouvons chercher des images qui nous accrochent. Le petit plan, vous l'avez là-bas, l'Église comme peuple des dieux. Peuple des dieux, famille des dieux, le corps du Christ, le temple saint, l'épouse du Christ et une conclusion. Le peuple des dieux, l'Église vient du mot grec ecclésia, rassemblement, une assemblée. La Bible parle d'un ramassis de gens dont Dieu fait un peuple dans le livre de l'Exode. Pas des gens choisis sur leur qualité ou leur mérite, Dieu les choisit par amour et en fait son peuple. Puis le choix des dieux s'est élargi aux disciples de Jésus-Christ. Et la loi de ce peuple, c'est le commandement d'aimer, comme le Christ nous a aimés. Sa mission, d'être celle de la terre et lumière du monde. Sa destinée, c'est le royaume des dieux. Ce peuple des dieux, comment on en fait partie? Par le baptême. Comment fait-on partie de ce peuple? Une institutrice qui demande à ses enfants à l'école, est-on chrétien à la naissance? Une petite fille qui lève le doigt. Non, madame, à la naissance, on est normal. Donc, quand on devient chrétien, on est normal. On devient membre de ce peuple, non par la naissance physique, mais par la naissance d'en haut, par le baptême de l'eau et de l'esprit. Nous avons entendu Jean-Baptiste hier, celui qui vient après moi va vous baptiser dans l'Esprit Saint, dans le feu. Baptiser vient du mot grec qui signifie baptizo. Disons en grec, qui veut dire immerger, plonger dans l'eau. Les gestes du baptême sont chargés de sens. En entrant dans l'eau, nous mourons avec le Christ Immersion nous purifie de tout péché. En ressortant de l'eau, nous commençons une nouvelle vie dans l'Esprit Saint. Le baptême fait de nous des membres du peuple de Dieu. Ce peuple de Dieu est immense à travers le monde, donc l'Église dans le monde. Environ 2 milliards de chrétiens, près du tiers de l'humanité. Hors d'Europe, l'Église est en croissance rapide en Asie, en Amérique latine, en Afrique. Il y a 150 ans, l'Europe envoyait des missionnaires en Afrique. On a parlé des attentats, où il y a eu des pères missionnaires qui sont venus en Afrique, et qui ont travaillé aussi dans la chaleur, qui avait chaud, mais ils allaient à l'ombre, il y avait des rivières. Et les Africains qui viennent ici, il fait froid, il faut se vêtir, et des bobos et les pieds, et il faut faire avec. Pendant mes deux premières années, c'était dur, je voulais rentrer tout de suite. On m'a dit, mais non, mère, il ne faut pas rentrer, c'est de la foutaise. La mission, c'est ça aussi. Et voilà tout ce qu'on encaisse, et les pieds, les bobos, la mission, c'est ça aussi. L'Afrique envoie des missionnaires en Europe, annoncer l'évangile. On s'est dit, mais ce peuple, ils ont envoyé des missionnaires. Donc c'est pour montrer le travail accompli par ces missionnaires, apporter de fruits, et nous sommes là. Et l'Église, c'est une mère, une femme qui a deux enfants, l'autre trois, un quatre, huit, et on se les partage au service de la même mère, l'Église. Mais une partie importante de l'Église est persécutée au XXe siècle. Plus de gens sont morts pour leur foi dans le Christ que dans tous les chrétiens, dans les siècles précédents, cumulés. Papa, on dit, mais nous allons au XXe siècle, XXIe siècle, avec une maîtrise d'intelligence, de technologie, mais pendant ce temps ici, que nous avons parfois des victimes, des martyrs, à cause de leur foi. Parce qu'ils sont chrétiens. Environ 200 millions de chrétiens vivent dans la peur de la police secrète, des dénonciations, de la répression, de la discrimination. Maintenant, nous sommes en train de vivre cela d'actualité avec l'Irak, les musulmans qui tout de suite sont en train de poignarder parce qu'ils sont chrétiens et bombarder l'église et les prêtres qui sont à la messe tués parce qu'ils sont chrétiens au cœur d'un pays musulman. Cela n'empêche pas une grande vitalité, une grande disponibilité de ce peuple. Oui, l'église dans le monde, avec tous ses joies, tous ses martyrs aujourd'hui encore, mais une grande famille de Dieu. Parce que Dieu est le père de tous à ce moment-là. La prière que Jésus nous a appris, il n'a pas dit de dire « Mon Père qui est aux cieux », nous disons tous ensemble « Notre Père qui est aux cieux ». Donc quand nous accueillons Jésus dans notre vie, nous devenons enfants de Dieu. Dieu est notre Père à tous. Jésus-Christ, notre Sauveur et l'Esprit Saint, demeure en nous. C'est ce qui fait de nous des frères et des sœurs. On choisit ses amis, on ne choisit pas ses frères et sœurs. Ainsi autour de nous, nous sommes là, en frères et sœurs, des moments comme ça de convivialité, on a mangé, on a bu, et maintenant, allez, on papote un peu, et puis on va dormir en paix. Ça vaut le coup de faire connaissance les uns des autres, car nous passons parfois une partie de notre éternité avec ses amis, ses frères et sœurs. Nous sommes ici, comme on dit à l'Église, parce que nous connaissons encore, c'est là où Dieu nous a mis. Si vous n'êtes pas encore chrétien, ce sont vos frères et sœurs potentiels. Ainsi, nous pouvons prier pour que petit à petit les autres aussi soient touchés par l'Esprit et nous rejoindre dans cette grande famille. Mais dans cette famille, évidemment, comme on dit en Afrique, même les mamans qui font dans la cuisine, après ça l'étagère, ils mettent là-bas les casseroles, les cruches. Et m'a donné, on cherche une cruche. Même dans nos familles, les casseroles peuvent faire du bruit et se cogner. Donc il y a enfin des moments parfois d'incompréhension, de fragilité, et des discussions, des divisions dans l'Église, dans ce peuple de Dieu. C'est pas ce qui est amusant. Quand ils sont ensemble, ils se querellent, ils se divisent. Quand ils sont divisés, ils prient pour se réunir. Prions pour l'unité. Donc les chrétiens font partie d'une même famille. Même quand les frères et sœurs se disputent ou ne se voient pas pendant longtemps, ils demeurent frères et sœurs. Pendant la semaine de la prière de l'unité des chrétiens, il est bon d'aller prier aussi dans une autre communauté, simplement, une autre confession. Vous savez, lors d'une de ces réunions de prière, un catholique demande à sa voisine, « Madame, de quelle confession êtes-vous ? » ?»« Je suis évangélique, » répond-elle. « Évangélique ? Comment peut-on être évangélique ? » s'exclame l'homme. Mon grand-père était évangélique et mon père était évangélique. Ah, voilà une raison. Si votre père et votre grand-père avaient été des imbéciles, que seriez-vous? Elle répond, du tuc au tac, catholique, j'imagine. Cette histoire aurait pu se passer n'importe où, n'importe quand. Heureusement, elle est improbable de nos jours. Mais illustre bien parfois l'histoire de l'Église, division sur division. Non seulement on est divisé sur les catholiques, protestants, réformistes. J'étais en Allemagne à un moment donné, il y a eu une grande bagarre dans un couple. Les deux étaient des théologiens, docteur en théologie, monsieur, madame, une église côté de Gaesma. Et un problème, je crois, des collègues, je ne sais pas quoi. Et finalement, et un beau jour, le mari prend les Bibles, ses travaux, et c'est fini. Avec quelques amis, ils ont ouvert une église là-bas au-dessus, et voilà. Donc la dame est restée avec l'église, mais lui, ils ont loué une maison, ils ont commencé une église, et cette communauté s'est divisée en deux. Donc à un moment donné, nous avons parfois, comme ça, petit à petit, des petites divisions, même au cœur de notre protestantisme. Alors, ça fait des petites divisions, subdivisions alors. Mais quand nous prions pour l'unité de l'Église, même si l'Église est divisée, elle est une. Parfois, à un moment donné, il y a eu des problèmes avec les congrégations religieuses, mais pourquoi les jésuites, les oblats, les immaculés, mais tout cela, c'est dans l'intérieur, à l'intérieur de l'Église. Hein. C'est le charisme. Donc, ce n'est pas parce qu'on est jésuite, qu'on est oblat, qu'on est franciscain, qu'on est divisé dans l'Église, c'est le charisme. De la désunion, parfois, ça fait un scandale, un obstacle majeur sur le chemin de la foi. Ce qui nous unit est infiniment plus grand que ce qui nous divise. Paul écrit, appliquez-vous à préserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Car il y a un seul corps, un seul esprit, et vous avez été appelés à une même espérance, un même Seigneur, une même foi, un même baptême, un Dieu Père de tous. Ephésiens 4, 3. Donc le Père aime tous ses enfants, être désuni, c'est lui dire, choisis entre eux et nous. La dernière prière de Jésus, la plus instante, est que nous œuvrions sans relâche pour reconstruire l'unité de l'Église. Sa prière, Père, qu'il soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Notre famille est née au pied de la croix et dépasse tout ce qui brise la communion entre les hommes. Une famille dont personne ne peut être exclu, qui dépasse les origines, l'éducation, l'âge, la nationalité, les barrières culturelles, pour cela, tous ces éléments font partie de la richesse de l'humanité, de l'Église. En Christ, nous sommes frères et sœurs, nous avons le même sang, le sang de la croix. Et aujourd'hui, nous parlons d'Immaculée Conception, en parlant un peu avec les amis, mais voilà ce que Saint Luc, un grand théologien de la mariologie sur la Vierge Marie, n'a pas parlé d'Immaculée Conception. La réponse très simple, vous savez, quand Saint Luc écrivait son évangile, Bernadette n'était pas encore née. Mais au pied de la croix, et voilà que Jésus qui dit, fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. Donc déjà au pied de la croix, Marie devient déjà notre mère, qui devient déjà la première église qui accueille la foi, et c'est permanente jusqu'à la croix. Aussi, nous pouvons rechercher l'unité dans nos groupes, dans nos paroisses, entre les confessions, en priant ensemble et en travaillant ensemble. Tout ce que nous pouvons faire ensemble, faisons-le. Unité de l'Église, une communauté de vie. L'Église est une communauté de vie avec Jésus-Christ. L'expression « les uns, les autres » revient souvent dans le Nouveau Testament. Nous aimer les uns les autres, de ne pas médire les uns les autres, ne pas nous juger les uns les autres, porter le fardeau de l'autre, nous pardonner l'un l'autre, nous accepter l'un l'autre, consacrer les uns aux autres, être bon, être généreux, être patient les uns avec les autres. Il y a un curé qui était tout le temps embêté parce qu'il y a une bobonne qui venait tout le temps. Mon père, je vais à la confesse. Oui, aujourd'hui encore, j'ai critiqué ma voisine. Aujourd'hui encore, j'ai jugé ma voisine. Et puis, un jour, je connais déjà. Tu as critiqué qui? La voisine de la gauche ou de la droite? Ne fais plus. À un moment donné, nous sommes dans la routine comme ça, sans faire attention à nos critères de jugement. Alors, ça devient comme de la routine. À un moment donné, stop. Entrer en conscience, qu'est-ce qu'on veut? Voilà donc, on revient les uns les autres. La qualité des liens d'amitié dans l'Église est plus profonde que tout ce que parfois nous expérimentons ailleurs. Un jeune homme avait perdu sa ferveur. Il est allé demander conseil à un chrétien âgé et sage. Comme ils étaient assis près du feu, le vieil homme se lève et sans dire un mot, il prend les pinces à chardon, saisit une braise ardente, la sort du feu et la pose sur le rebord de la cheminée. Puis il revient s'asseoir, silencieux. Le jeune homme voit la braise se refroidir et s'éteindre. Le vieil homme se relève. Il ramasse le morceau de charbon refroidi, le remet au feu. La braise recommence à rougir. Le jeune homme comprend pourquoi il avait perdu son enthousiasme. Il s'était éloigné de cette communauté de vie. C'est pour cela qu'il est important, alors que ce cours d'Alpha s'achève, de penser à la suite. Nous avons des suggestions. C'est encore une deuxième année. Bon, est-ce que si nous faisons une deuxième année, il faut maintenir chaque mercredi? Des questions qu'on se pose. Est-ce qu'il y a aussi module lire la Bible qui est aussi important? Si on ne peut pas l'insérer, ça nous aide un peu avec ce temps ici d'année à aller plus en profondeur dans l'évangile de Saint Matthieu. Voilà des pistes de réflexion. Une manière de poursuivre, parce que nous avons aimé ce parcours Alpha et nous sommes là jusqu'à la fin. Nous avons tenu bon, persévérance, nous avons eu beaucoup de grâce, beaucoup d'enseignements et aussi de rejoindre pendant un temps l'équipe qui va. Peut-être commencer ou à Jean-Baptiste ou à Saint-Antoine. Voilà, est-ce qu'on prend la même équipe de la cuisine? Est-ce que nous poursuivons pour porter un service aussi à ceux qui vont commencer ici ou ailleurs? C'est une manière de rester dans l'ambiance, en transmettant à d'autres ce que nous avons reçu pendant ce cours d'Alpha. Au début, c'était un peu difficile aussi à Biège. Ah, ceci, cela. Mais pourquoi tu sais ce qu'elle est à l'extérieur? Alors, je vais à la source, je vais te voir Georges. Et pourquoi on ne veut pas faire Alpha à Biège? Il y a 2 ans, on a commencé avec Eric cette histoire d'Alpha à Bierge. Enfin, non, je n'ai jamais su. Venez à Bierge, parlez-nous d'Alpha. Et voilà, petit à petit aujourd'hui, nous sommes à la fin du parcours. Et le bilan, c'est dans le cœur de chacun de vous. La grâce qu'on a obtenue, l'enseignement qu'on a reçu, ça, c'est ineffaçable, ça reste. Donc, il n'est pas possible de transmettre à d'autres ce que nous avons reçu, ce qui a brûlé, qui nous brûle encore dans notre cœur. Il n'est pas possible de suivre parfois. Comme on dit une deuxième fois le cours, comme participant, mais on peut aussi revenir comme membre de l'équipe. Équipe d'accueil, équipe de cuisine, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez aussi rejoindre un groupe de prière, un groupe d'études de la Bible, un groupe, comme on dit, il y a beaucoup de modules à la paroisse. Et on peut dire, ah oui, maintenant avec ma grâce que j'ai entendue, je peux aussi donner ma présence, mes énergies pour ceci, cela. Et donc, le troisième élément, le cœur du Christ. La troisième image est celle du corps du Christ. Paul écrit, vous êtes vous le corps du Christ et membres chacun pour sa part. Un seul corps, mais des membres divers. Dieu aime la diversité. On le voit dans la nature. Une participante à un cours Alpha, spécialiste de arômes, a expliqué parfois a expliqué que l'odeur d'une seule rose est composée de 400 molécules différentes. Dieu est extrêmement créatif. Il est aussi avec l'Église dans laquelle il répand une diversité merveilleuse de ses dons et charismes et grâces et bénédictions. Chaque partie du corps est indispensable. Un pasteur racontait, un membre de notre congrégation est venu se plaindre. Vous savez, un homme avait besoin d'être logé, nourri, le temps de se ressaisir et de trouver un travail. Alors, lui, j'ai appelé la paroisse. Mais personne n'avait le temps de m'aider. J'ai dû l'héberger une semaine. Le pasteur a hébergé ce type-là pendant une semaine. Vous ne croyez pas que l'Église devait prendre soin de ces gens-là? Le pasteur a répondu, il semble que l'Église en a bien pris soin. Chaque fois qu'un chrétien fait un acte de charité, c'est l'Église qui le fait. Jusqu'il y a 2 ans, on m'a interpellé. Je suis parti chez une mamie qui était malade. J'avais une de Brouvet, Beauvreuil. Elle était toute seule. Elle m'a donné des problèmes avec les aides-soignantes. Personne ne voulait. Elle était nerveuse comme ça, agressive. Bon, je suis intervenu un peu dans sa vie pendant 2, 3 jours. J'ai même dormi là-bas. J'ai eu froid à cette maison-là. Elle m'a donné en parlant. On m'a dit, mais monsieur le curé, ce n'est pas votre travail. Pourquoi vous avez dormi là-bas chez cette femme-là? Vous savez, là où parfois les structures font défaut, l'Église doit intervenir. Donc, si je suis là, c'est comme église. Je ne vais pas là parce que je suis curé, parce que je suis chrétien, parce que je suis un homme, je suis parent de service. Si je le fais au nom de la communauté. Donc, vous voyez que chaque fois qu'un chrétien, une chrétienne fait un acte de bonté, de charité, c'est l'église qui le fait. En somme, nous formons l'Église. C'est une lourde responsabilité quand nous représentons le Christ au monde. On nous a montré à la télévision une famille, trois enfants. Ils dorment dans une voiture, dans un parking. C'est bien la télévision, ça devient médiatique. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Au cœur de l'Europe, au cœur de Bruxelles, non, ça devient un problème médiatique à la télévision. Mais c'est une famille avec des enfants. Ah, on a peur, on va nous retirer les enfants. Donc, est-ce vraiment être derrière la loi? Qu'est-ce qui est légiféré? Qu'est-ce qui est légalisé? Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Il y a des bâtiments qui sont vides. Ah, il faut quoi tcher? Ah, ceci. En fait, ça, on n'entre pas dans les détails. Mais vous voyez combien sont des situations parfois qui peuvent se présenter, que ce soit dans le parking, que ce soit dans nos propres villages. Prenons l'élément de la paroisse. Nous avons l'église, le corps du Christ. Nous avons cette petite famille, la paroisse. Le lieu où nous sommes appelés à vivre notre vie chrétienne. Et où nous découvrons cet aspect du corps. C'est la paroisse, l'église locale. Choisissez un lieu qui vous convienne et restez-y fidèle. La lettre aux Hébreux nous dit, ne désertez pas votre propre assemblée. Comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais encouragez-vous mutuellement. Une paroisse, ce n'est pas la pizzeria de coin. Si elle n'est pas assez bonne, on va à celle d'à côté. Il y en a qui zappent l'église, zappent le curé, zappent la salle de fête. La communauté chrétienne est un corps, un tissu étroit des relations. Le zapping ne lui convient pas. Votre paroisse a des défauts. Plutôt que de la quitter d'un air indigné, posez-vous la question, et qu'est-ce que moi je peux faire maintenant pour aider à ce que ma paroisse, ma communauté soit accueillante, et soit plus aimante, plus chaleureuse, plus priante, plus proche du Seigneur et des hommes et de notre entourage. Je disais tantôt ici, j'ai eu des mails comme ça et des coups de téléphone. Ah, vous avez mis chez le vicaire son téléphone, il faut mettre son GSM parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il va au cours. Je lui ai dit, mais Pierre, tu penses que nos amis qui viennent à la messe samedi soir, ils ont des internets. Tu penses qu'une famille qui pleure, il y a un décès en famille, on va aux pompes funèbres. On vous téléphone, oh, mais nous avons la famille ici, un décès. Est-ce que tu peux faire l'enterrement mercredi à telle heure? Très bien. Et j'ai dit, non, ne me téléphonez pas, mettez ça à mon email. Et ils sont là avec le cadavre, le pompe funèbre, chercher le boîte email de Pierre. Donc, à un moment donné, nous sommes là au service de la communauté. On nous prend parfois au vif un malade, un accident. On ne va pas chercher notre email, un coup de téléphone. Donc, c'est plus pratique, nous sommes là au service. Donc, ce n'est pas que je vais mettre le numéro de téléphone de Pierre, n'importe où, parce qu'il soit accessible. Il est au cours, on laisse les messages. Après le cours, messagerie. Ah bon, pompe funèbre, vous êtes où? À Wavre? Bon, j'accepte, mardi, tel enterrement. Vous voyez donc, être accessible, être disponible, être pratique. Donc, nous sommes là au service de la communauté. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la communauté soit accueillante, priante et plus chaleureuse et au service? Nous avons aussi la célébration du jour du Seigneur. Les chrétiens commémorent la mort et la résurrection de Jésus le dimanche, le jour du Seigneur. C'est un moment clé qui est indispensable de vivre chaque semaine. Vous voyez que parfois en semaine, nous travaillons beaucoup, mais nous avons le dimanche 45 minutes, une heure pour chanter, écouter la parole, prier l'Eucharistie, et voilà. Et après, il faut attendre une semaine. Parfois, il y en a qui ont l'occasion en semaine, le soir. Mais non, rien que ce morceau de temps, la 45 minutes, pour les nourrir spirituellement. Est-ce que c'est suffisant? Il faut chercher des modules pour grandir. Comme un vrai disciple de Jésus, il est nécessaire d'aller parfois au-delà de ce temps limité-là. Et il y a un jeune homme qui disait, avant, quand j'allais à la messe, je regardais les 80% d'absents. Alors je sortais moi-même morose, sans goût. Oh, 80% d'absents. Oh, nos églises qui se vident. Mais petit à petit, il a dit non. Au lieu de compter les 80 absents, maintenant, Seigneur, je vais compter les 20 présents, les 20% qui sont présents. Oh, il y a 20% qui sont présents. Oh, mais ils chantent, oh, ils lisent, il y a des enfants qui bougent. Et c'est merveilleux. Il a pris goût. Parce qu'avant, il voulait voir 80 absents. Mais il ne voulait pas voir les 20 qui étaient présents. Nous aussi, même dans notre groupe Alpha. On a fait toute boîte Alpha. Il a mis combien d'invitations? 100, 200, 1000. Alors, 500, je dis, mais on nous mettons 500 invitations, toute boîte, et s'ils sont 300, où est-ce qu'on va les mettre? Avec Georges, est-ce que tu penses vraiment, est-ce que vraiment ils viendront? Même ils sont 10, on va commencer. Vous étiez une trentaine, et vous êtes là jusqu'à la fête fidèle. Donc, nous avons cet élément-là qui est important, le groupe des maisons. C'est important pour notre croissance chrétienne de vivre régulièrement dans un groupe de taille restreinte, un temps d'accueil fraternel, de louange, d'étude de la parole de Dieu, comme notre salle est bien disposée. Et parfois les noms peuvent varier, cellules, maisonnées, fraternité, cénacle, mais c'est un modèle qui existe depuis les premières communautés chrétiennes, dont nous n'inventons rien. Ce groupe est un lieu propice pour développer des amitiés, parler en confiance, chacun peut y donner et y recevoir de l'aide, assistance, présence. Et cela n'existe pas dans notre église. Alors, réfléchissons avec d'autres sur les manières de les mettre en place petit à petit. Donc, ce sont des âmes, n'a rien qui se brusque. Nous avions, je crois, pendant 2 ans réfléchi ici si on pouvait mettre, rassembler un groupe des aînés. C'était difficile, il fallait quelqu'un qui accepte. Il a fallu 2 ans petit à petit, un mot ici, un mot là-bas, finalement une dame qui a accepté. On l'a envoyé 1 an en formation à Wavre. On a commencé un petit groupe ici. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Petit à petit, on est en train de cheminer. Mais qu'est-ce qui passé? J'ai eu un monsieur, Jean-Marie, qui l'a rejoint, ils sont à deux. Il dit, bon, non, vous êtes à deux, et là, je suis un peu. On est en train de travailler petit à petit au point du jour. Pour qu'au moment où si on m'appelle, Ah, ça te m'a des malades, c'est le viatique hein, qui est en agonie. Mais si je ne suis pas là, est-ce qu'il n'y a pas personne qui peut faire le relais? Jean-Marie a accepté aujourd'hui, au point du jour. Il commence déjà à faire le contact. Toi, tu t'appelles comment? Marie-Claire. Ah, c'est bien. Et toi, Julie? Ah, et toi, Françoise? Ah, c'est très bien. Et ta chambre? Chambre 18. Et toi, chambre 14. Petit à petit, ça, il met le visage sur le numéro de chambre. Parce qu'on t'appelle, hey, venez, c'est chambre 8. Ah, c'est chambre 14. Mais non, ce n'est pas chambre 8. Il y a une madame là-bas, elle s'appelle Francine. Donc, passer de ce niveau de numéro, personnaliser nos malades et nos aînés. Donc, des mises en place, il faut du temps, il faut de la patience. Parce que ces gens aussi, tout ce que nous faisons ici, qui est non catéchiste, tout ce que nous faisons en paroisse, qui est payé pour ça? C'est librement. Parce que nous avons la foi, parce que nous avons Dieu, nous avons notre Église, que nous le faisons. Personne n'est payé, sauf le curé, le vicaire, les structures de l'Église, enfin, entre guillemets. Mais les catéchistes, on les paye comment? Rien. Hier, nous avons réunion avec Fabrique d'Église. Pendant longtemps, Jean-Paul Aubin était président, il a fini son mandat. On a mis Benoît. Et puis, Bernard Goert a fait un mandat trésorier. Maintenant, il dit, je fais mandat, cherchez un autre. Nous cherchons un trésorier. Mais c'est du bénévole. Il faut faire des comptes, il faut faire l'état. Il faut discuter la commune, il faut discuter la région. C'est un service d'église. Voilà donc des pistes comme ça de réflexion. Donc c'est un grand rassemblement. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu célèbre lors de grands rassemblements, Pâques, Pentecôte, le grand pardon, Yom Kippour, des grands rassemblements chrétiens. Existe aussi de nos jours. On parlait tantôt aussi. Thésée, JMJ. Georges va aller avec les jeunes à Quimper. Le mouvement des jeunes adorateurs de l'Eucharistie pour 3 jours du 26 au 30 décembre. Alors, ils sont 10, ils sont 15, 20. Voilà des jeunes qui vont à Quimper, pas pour aller danser, c'est pas pour le rock. Non, Eucharistie, aller en profondeur. Alors, petit à petit, le message peut se diffuser aussi. Ah, nos enfants, si nous avons les jeunes, ça peut intéresser. Ça peut prendre du temps. C'est pas en un jour qu'on a construit. Donc, voilà les idées qui passent avec le travail de l'esprit de ces mouvements-là. C'est sur des paradémoniales. Nous avons eu sur la paroisse un qui a fait paradémonial. Tellement il était marqué, il dit non, maintenant je rentre, je m'engage concrètement dans ma paroisse. Il était engagé ici. Il est dans le groupe des catéchistes. Pourquoi? Parce qu'il a été touché par l'esprit de paradémonial. Il a promis de s'impliquer maintenant valablement dans la paroisse. Et voilà donc des opportunités qui nous donnent le tonus. Je vais terminer, genre. Donc, on m'a dit une demi-heure, alors tu vois, c'est... Bon, je prends là. Ah, merci bien. Alors, je prends le quatrième point, le temple saint. De la quatrième image de l'Église, quatrième raison pour laquelle nous aimons, nous, notre Église, c'est celle d'un temple sacré, le lieu où Dieu demeure. La demeure de Dieu parmi les hommes. Voilà un petit enfant, Antoine, qui faisait beaucoup de bêtises. Sa mère, qui ne savait plus que faire, l'amène voir la dame responsable du catéchisme, qui est réputée pour sa sévérité. Celle-ci le fait entrer dans son bureau, fait asseoir l'enfant et lui demande, « Allez, jeune homme, Antoine, où est Dieu ?» Le petit garçon devient nerveux. Sa mère se dit, « Excellent, elle sait y faire. » Sa réponse, la dame redemande d'une grosse voix, « Antoine, où est Dieu ?» Le petit garçon est pétrifié. Sa mère se frotte les mains. La dame demande une troisième fois, « Antoine, réponds-moi, où est Dieu ?» Mais là, le petit garçon, terrorisé, il s'élève, il sort en courant, il file à la maison et se précipite dans les bras de son père en disant, « Papa, à l'église, ils ont perdu Dieu et ils pensent que c'est moi qui ai fait le coup. Ils ont perdu Dieu à l'église. » Vous savez, même dans l'église, on semble parfois avoir perdu Dieu. Vous savez, il y a eu dans le temps, Pierre est là, la théologie de la mort de Dieu. Dieu est mort. L'église n'a plus de Dieu. Pourtant, l'église est sa demeure. Où est Dieu? Réponse, au milieu de son peuple. Paul écrit, en Jésus-Christ, vous êtes édifiés ensemble pour devenir l'habitation de Dieu par son esprit. Présence est un mot merveilleux. Non, notre travail comme prêtre, c'est plus un travail de plaisance. Il y a des fois, les gens qui passent, ça va-t-il est là? Il n'est pas là. Oh, il est toujours parti au maire, ça va-t-il n'est pas là? Mais je peux mettre la voiture au garage. Je peux parquer devant lui. Maintenant, avec mes pieds, je viens en voiture, juste devant la chapelle, parce qu'il ne fallait pas les mouiller. Maintenant, on m'a dit, ah, il faut des souliers médicaux ou quelque chose comme ça pour la neige. Tout, tout. Donc, tu vois, ah, la voiture est là, ah, il est là. Présence. Travail de présence simplement. Donc quand nous aimons quelqu'un, c'est sa présence que nous désirons le plus. Les lettres, le téléphone, les photos, c'est bien. Mais ce que nous désirons le plus, c'est sa présence. Si vous demandez à quelqu'un dont le conjoint est disparu, ce qui lui manque de plus, c'est la présence. J'enterrais M. Joseph en Allemagne, Steinheim. Alors la mamie là, c'est Sophie Schwab. Au moins deux fois par semaine, on se téléphone. Je téléphone, me téléphone. Et le mot qui revient tout le temps, Mani Joseph, je suis bien allée. Joseph est parti, et je suis toute seule. Et papa, tout le temps, je dois consoler, bénir au téléphone. Voilà, ça fait combien? Deux, trois ans, son mari est décédé. L'absence de Joseph, Mani Joseph, je suis bien allée. Je suis seule, la présence. Dans la première alliance, Dieu a promis de restaurer sa présence. Qu'Adam et Ève avaient perdu, sa présence envahissait le temple. L'exil était terrible pour le peuple d'Israël, car il est éloigné du temple. Le mettait hors de la présence de Dieu. À la Pentecôte, Dieu, en répandant l'Esprit Saint, donne à tous le sens de sa présence. Le mot-clé, la scène du Seigneur. Dans ce temple, Jésus nous donne accès au Père. Avant Jésus, l'accès au Père se faisait par l'intermédiaire du grand prêtre qui offrait des sacrifices pour les croyants. Jésus, par le sacrifice de sa vie, nous a réconciliés avec Dieu. L'Église en fait continuellement mémoire lors de la célébration de la messe, de la Sainte Cène. Il prit le pain, le rompit et l'ordonna. Jésus célèbre avec ses disciples la scène pascale d'Israël, le mémorial de l'action libératrice des dieux qui avait conduit Israël de l'esclavage à la liberté. À ce moment-là, Jésus semble avoir perdu le contrôle de sa vie. Mais ses ennemis se rassemblent pour le tuer. Il a été trahi par un de ses disciples. Les autres sont prêts à l'abandonner. Les autorités vont l'arrêter et le mettre à mort. C'est précisément à ce moment-là qu'il pose un acte étonnamment libre et promet l'avenir. Une nouvelle alliance, une nouvelle communauté, le don de son corps. Il n'attend pas simplement l'arrivée des soldats, il prend l'événement dans ses mains. Il accepte sa mort au plus profond de lui-même et la transforme en un acte d'amour. La violence se transforme en amour et donc la mort en vie. Un processus de transformation se déclenche dont le terme ultime est la transformation du monde jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous. Le pain et le vin nous sont donnés afin que nous soyons transformés à notre tour, que nous entrions dans cette dynamique. Vous voyez l'Eucharistie, personne ne vient comme les chips, je prends moi, c'est maintenant c'est moi. Non. Le cœur du Christ, on nous le présente. Le corps du Christ, on nous le donne. Amen. Je reçois, nous recevons le corps du Christ. Ceci est mon corps livré pour vous. Une alliance nouvelle et éternelle. Vous savez, déjà, ça va passer. C'est dans notre vie de travail ou tout ce que nous faisons. Si derrière la tête, derrière le cerveau, n'a pas cette mission de vie éternelle, alors, il y a quelque chose qui manque, il y a un jus qui manque. Donc ce don est pour nous l'instant fondateur d'une bénédiction et d'une nouvelle vie. Face à sa mort, Jésus fait une nouvelle alliance. C'est un geste de création et de conversion, d'une récréation. Cet acte annonce la fécondité de la résurrection. Lorsque le Père transforme le corps mort de son Fils et le vivifie au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, Dieu fait toujours irruption dans notre monde pour une créativité inattendue. Boire la même coupe, manger le même pain symbolise notre unité en Christ et la renforce. Ceci est mon corps livré pour vous. C'est ce que nous répétons et ce dont nous vivons, c'est ce geste qui constitue la communauté. Papa, à un moment donné, il y a quelque chose qui nous dépasse, nous prêtre à l'autel, à l'Eucharistie. Évidemment, on dit, ah, ça fait 30 ans qu'il est prêtre, ça fait 5 ans. Mais chaque Eucharistie est particulière. Chaque messe est spécifique. Chaque messe est nouvelle. Chaque messe, nous avons une autre sensation. Quand vous regardez le peuple de Dieu, et vous êtes en prière, le temps fort des consécrations, parfois, on ne regarde même pas les gens. Nous avons la formule en tête, nous avons le livre, vous avez le corps du Christ. Il y a des vibrations, des sensations, parfois, que vous ignorez. Parce qu'il faut à un moment donné, il ne faut pas tout le monde... Tout le monde soit prêt, évidemment. Quand on est là, c'est pour dire que nous sommes dans un lieu mystique très profond. Pierre peut le dire. Chaque messe est unique, d'autres sensations, d'autres vibrations, d'autres intériorités. C'est pour ça que les enfants qui sont là autour de nous, ils nous regardent. Ce que nous disons, ce que nous faisons, nos gestes, ils sont là, stupéfaits. Parfois, à un moment donné, quand je coupe, je leur présente, je vois tous les yeux là qui me regardent. Et je prends conscience que j'ai les jeunes autour de moi. C'est quelque chose de très sérieux, de très profond. Voilà ce qu'on peut livrer comme témoignage d'un prêtre à l'Eucharistie. Faites ceci à mémoire de moi, pour le pardon des péchés. En recevant la communion, nous regardons avec gratitude vers la croix où Jésus est mort, pour que nos péchés soient pardonnés. Celui qui est sans péché, c'est un menteur. Le pardon est la puissance de la résurrection pour transformer ce que nous avons et ce que nous sommes. Un célèbre artiste... Bon, je passe. Faites cette mémoire de moi. Jésus distribue alors le pain et le vin. Et en même temps, il confie aux apôtres la mission de redire et de refaire toujours de nouveau en sa mémoire ce qu'il est en train de dire et de faire en ce moment. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, je sais qu'il vienne. Chaque Eucharistie est actualité. Il ne s'agit pas d'une simple répétition. Chaque célébration nous place à l'intérieur de l'histoire de Jésus. Une histoire qui dépasse le moment présent et nous mène au royaume. L'Église, comme épouse du Christ, je termine par là. Déjà, j'étais 5 minutes, pardon, donc je termine. C'est lui qui m'a dit d'ajouter tel élément, tel. Alors qu'on écrit, évidemment, c'est beau. En attendant, ça prend du volume. De toute façon, vous zappez, vous prenez ce qui reste, c'est ça qui est important, ce qui reste. Le reste, c'est, comme on dit, on prépare le poulet avec les ingrédients, donc je mets les ingrédients. La cinquième raison pour laquelle nous aimons notre Église est qu'elle est l'épouse du Christ. Paul écrit, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle, afin de la rendre sainte, pour la purifier avec l'eau, avec la parole, et la présenter à lui-même comme une Église radieuse, sans tache, ni ride, sans aucun défaut, sainte et irréprochable. Dans une cérémonie de mariage, nous aimons souvent le début. Les amis et la famille sont installés dans l'église. Le fiancé d'abord, seul. Je le prends, je m'avance avec lui. Je lui donne sa place. Le fiancé, là, il est là, tout seul. Lui avec moi, on regarde maintenant l'entrée. Et papa, je descends. Je prends maintenant la fiancée dans les bras de son père. La fiancée manque. Elle attend en arrière. L'assemblée attend en silence. La musique commence. Et l'assemblée s'élève. La fiancée répond lentement. L'allée au bras de son père. Le fiancé est là, debout, devant l'autel. À ce moment-là, il se retourne. Il regarde son épouse, merveilleuse, parée pour son époux. C'est un très beau moment magique. Et bien, il y a parfois qui ont les larmes aux yeux. Alors là, les Africains, ils font des cris. Ah, il y a un problème, comme ça, des moments qui, des vibrations. Sur cette image, pour nous, on dit, alors le moment magique, quand ils sont là, les jeunes prêtres, qui, ils sont couchés là, quand on chante les litanies des saints, ils vont s'élever pour l'ordination. Et quand ils s'élèvent, on a les yeux et s'éblouit et quoi. On dit, voilà, ils sont rayonnants. Ah, ils sont beaux. Il y en a qui disent, mais c'est du gaspillage. Tous ces garçons, on les gaspille, on les fait prêtre. Non, c'est pas du gaspillage. Chacun a sa vocation. Donc voilà que c'est l'image de l'Église que donne parfois l'Apocalypse. Je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu et s'est faite belle comme une jeune mariée parée pour son époux. À la fin de ce cours d'Alpha, il y a un jeune homme qui témoignait. Avant, je regardais, comme je disais là au début, le 20% qui n'allait pas à l'église, à la messe. Et ne faisait pas de progrès. Mais depuis que j'ai découvert les 80% qui marchent, ça a transformé ma vie. Donc, voir aussi ceux qui marchent. Donc, vous voyez que nous pouvons avoir les médias qui nous donnent tous les commentaires et toutes les statistiques et tous les querelles, tous les problèmes de l'église, tous les défauts. Ah, regardez, le prêtre là-bas a fait une bêtise. Ah, l'évêque a fait une bêtise. Mais on oublie qu'à travers le monde, ils sont combien? 250 000 prêtres, simplement dans nos villages, dans nos paroisses, qui font leur travail avec beaucoup d'humilité et de simplicité. Ah, les chrétiens n'ont plus, l'église sont vides. Mais ils sont là. Chaque dimanche, quelle est cette corporation qui rassemble chaque dimanche à travers le monde pour 200 personnes? Qui? Quelle est cette unité qui rassemble à travers le monde chaque dimanche? C'est l'Église. Et qu'est-ce que nous faisons dans l'Église? Louer le Seigneur. Ce que nous faisons maintenant, depuis le commencement. La communauté de Saint Matthieu. Matthieu était un juif, un chrétien d'origine juive. C'est lui qui a écrit l'évangile Saint Matthieu, entre 80 et 85. La communauté de Matthieu, c'est une communauté, au début avec les pharisiens qui ont commencé à codifier la Bible, mais ils ne s'entendaient pas avec beaucoup les pharisiens et le groupe de Matthieu. Le groupe de Matthieu, il disait, nous sommes une communauté ouverte, qui avait trois objectifs, l'enseignement, la morale et le culte. Enseigner, comme aujourd'hui, nous continuons à enseigner. Nous parlons, vous écoutez. Le catéchisme, l'évangélisation, enseignement. Et puis le moral, faire attention à la communauté, qui ait moins de disputes, moins de bagarres, charité, qui se partage. Et le culte, rendre grâce à Dieu. C'est ce que nous faisons chaque fois. Et louer Dieu, et par les chants, louer Dieu, en allant au cœur même de la foi, l'Eucharistie, qui fait de nous vraiment ce peuple de Dieu, cette grande famille, la famille universelle, la famille réduite de la paroisse, et la famille paroissiale, comme dit la dominicale, comme disait Jean-Paul II, cette famille qui est l'Église comme souche pour nous. Donc nous pouvons déjà commencer dans notre propre famille, avec nos enfants, mes neveux, avec mes filles, petit à petit donner les éléments de valeur. Et petit à petit, ils peuvent demain aussi continuer ce travail de la mission, enseigner et le culte de Dieu, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Merci beaucoup. Je prie un peu que tu regardes.